Deuxième partie. On en revient à l'idée première qui était donnée à Jaquette une gouvernante. De cette façon, dit Ninon, nous cesserons d'avoir la chère enfant sous les yeux, et nous aurons notre responsabilité à couvert. On avisa le marquis de ce projet. Foulque fronça d'abord le sourcil, comme toutes les fois qu'on le consultait pour la forme, car il aimait à paraître rouler mille objections dans sa tête. Puis il jugea le projet convenable. La difficulté était de trouver la gouvernante, car on ne connaissait personne qui fût apte à remplir cette fonction. Madame de Château-Bedeau avait justement dans ses relations une certaine demoiselle Le Quinconas, issue d'une famille des plus honorables, mais ruinée par le système, et dont elle savait le plus grand bien quant à la science et à la moralité. Le marquis Foulque haïssait les figures ingrates et décrépites. Il les prétendait néfastes à la jeunesse, et pour rien au monde n'eût consenti à ce qu'une d'elles respirât au chevet de sa fille. C'est pourquoi il avait tout d'abord froncé le sourcil un peu plus longuement qu'à l'ordinaire, au seul mot de « gouvernante ». « Ma fille, dit-il, ne sera pas élevée par une duègne. Ces vieilles sottes inculquent à l'enfance des idées d'un autre âge. Elles ont des manies invétérées et l'obstination des mules, sans compter qu'il leur arrive fréquemment de répandre une aigre odeur. » Mais madame de Château-Bedeau le tranquillisa en lui affirmant que mademoiselle de Quinconas réunissait précisément le double avantage d'offrir des dehors agréables et une docilité parfaite aux exigences des familles touchant les méthodes d'éducation. Elle était la propre nièce et filleule de Monseigneur l'évêque d'Angers et vivait présentement dans une petite ruelle avoisinant la cathédrale, d'une maigre rente servie par la munificence épiscopale. La description de cette maison humide et basse, abritant une personne pleine de mérite, suffit à gagner le cœur excellent de Ninon. De quel bienfait n'était-on pas redevable à madame de Château-Bedeau ? Il fut évident que la maîtresse de monsieur de la Vallée-Choury avait aujourd'hui tiré la famille de la situation la plus difficile. La seule madame de Mathefelon qui ne perdait point la tête s'avisa le soir de faire observer à Ninon que, en somme, on avait pris un parti bien promptement. « Croyez-vous ? » dit Ninon. « Oh, je le crois, » dit madame de Mathefelon, « car cette gouvernante ne vous est connue, en somme, que par madame de Château-Bedeau, qui a rendu elle-même son intervention nécessaire par ses propres déportements. »« Je l'oubliais, » fit Ninon, « mais tout cela ne sait de quoi se rompre la tête. » Arrivée de mademoiselle de Quinconas et son installation. Ce que Jaquette apprend tout d'abord du fait de sa gouvernante. La gouvernante arriva un beau jour de septembre, à la tombée de la chaleur, dans un carrosse poudreux que le marquis avait envoyé tout exprès au-devant d'elle jusqu'au pont de C. Les hôtes du château étaient cachés dans une grande pièce aménagée en lingerie donnant sur la cour, afin d'avoir l'œil sur la Quinconas au moment où elle mettrait pied à terre. Seuls Ninon et madame de Château-Bedeau l'attendaient au salon. Le marquis s'avança dans la cour en rejetant du coin de la semelle les marrons tombés avec leurs coquilles épineuses à demi éclatées dans les petites rigoles entre les pavés ventrus. Et arrivé au porche d'entrée, il regarda sur la route de Saumur la main en abat-jour et la figure grimaçante à cause du soleil qui se trouvait bas, juste en face. Et remarqua soudain qu'il rajustait sa perruque et faisait des pichelettes sur un jabot, d'où l'on augura que la voiture était en vue et que le marquis se souvenait du portrait avantageux que madame de Château-Bedeau avait tracé de la gouvernante. Le beau Fleury, le cocher, eut, en faisant tourner les chevaux dans la cour, un clin d'œil qui en disait long sur l'effet que lui avait produit la voyageuse. Celle-ci était aussitôt par terre, très simplement, très vivement, avant que Foulque fût là pour lui présenter la main. L'avis de la lingerie fut unanime. La nouvelle venue était quelconque. Cependant, M. de la Vallée Malitourne, qui n'avait rien vu parce qu'on l'avait posté près de la porte en sentinelle, ayant ouvert avec son ordinaire malchance, juste de façon à se trouver nez à nez avec Mademoiselle de Quinconas, réapparut en se baisant le dessus de la main et disant que la nouvelle venue avait la bouche la plus affriolante. Son frère Choury se précipitait et, simulant sur ses reins une jupe amplement rebondie, « Oh ! Dit-il, la gouvernante fournit sans doute elle-même la mappemonde. » Il n'en fallait pas plus pour celle à qui l'on trouvait du même coup d'aussi grande qualité aux antipodes, eut contre elle toutes les femmes présentes. On lui donna les appartements de feu M. Lemeunier de Fontevraud, un peu surannés quant aux teintures, mais spacieux et commodes, situés au rez-de-chaussée vis-à-vis un petit parterre, au couchant bien planté et de tenue frais. Le marquis tint à l'y accompagner pour lui faire honneur, cela va sans dire, et lui énumérer tout de suite et point par point ses instructions. Jacquette, enorgueillie de valoir à elle seule un si grand remue-ménage, s'amusa seule dans le parterre, en attendant, après avoir vu Fleury dételer les chevaux. Elle marchait avec précaution dans les sentiers étroits, garnis d'un sable fin soigneusement ratissé, entre les bordures de buis, puis jetait un regard en arrière pour voir la trace de ses chaussures, pareil à un semis de point d'exclamation. Elle piqua tout à coup dans le sol un de ses talons et tourna sur elle-même comme un toton, fermant un œil toutes les fois qu'elle se heurtait au rayon du soleil qui venait par l'allée des fontaines et semblait mettre le feu au panache des marronniers. Ce rayon atteignit bientôt les vitres des appartements de la gouvernante, et Jacquette se plut à imaginer que l'ancienne chambre de M. Lemeunier de Fontevraud était bordée de pots de confiture de groseille, et elle eût bien voulu y regarder de plus près, mais c'était difficile. Alors elle trouva le ton long et s'ennuya. Les pigeons exécutaient autour du château la dernière ronde du jour, et le parc entier retentissait du ramage des oiseaux. Puis tout cela s'apaisa d'un coup. Les pots de confiture fondirent, la belle lumière s'envola, et tous les bruits avec elle. On pouvait distinguer le pas menu d'un chat qui se brûlait les pattes au bord du toit en courant sur les rigoles de plomb échauffées. Jacquette en revint toutefois à son idée, qui était de regarder par la fenêtre de la gouvernante, et elle appela dans ce but le chevalier d'Hautegard, qui s'en allait tout seul vers les bassins en rêvant au coucher du soleil selon sa coutume. Jacquette le tenait en une estime particulière, parce qu'il affectionnait les étangs, les fontaines et le bord du fleuve, hanté, au dire de sa nourrice, par des génies redoutables, et elle le soupçonnait de commercer avec les fées. Il interrompit sa promenade à la prière de sa jeune amie et pénétra dans le parterre en enjambant la clôture. Il s'agissait de descendre dans le fossé à demi comblé et de se dresser au long de la muraille, avec Jacquette sur les épaules, à l'endroit où une giroflée croissait entre les pierres. La petite surprendrait ainsi Mademoiselle de Quinconas. On rirait de part et d'autre et ce serait une jolie façon de faire un peu connaissance. Le chevalier se prêta volontiers à ce caprice d'enfant et Jacquette, ayant essuyé la semelle de ses souliers sur l'herbe du fossé, escalada le dos d'un habit feuille morte qui était renommé pour fournir le ton exact des pensées du chevalier d'Hautegard. L'habit se tendit, les petits pieds gazouillèrent sur la soie, et s'établir le plus fermement possible de chaque côté du col. Le chevalier serrait prudemment contre ses paumes les fins mollets de Mademoiselle de Chamarante. Tout d'abord, Jacquette ne vit rien que l'allée des fontaines, les marronniers et un petit bout de clocheton du colombier qui se reflétait dans la vitre. Mais en appliquant bien les mains sur chaque tempe, elle distingua les moulins brodés sur les tentures, puis du linge blanc, une robe au dossier d'une chaise, un guéridon portant la boîte à poudre. Et soudain Thérèse, la femme de chambre, qui parut et disparut, tirant à son doigt le linge que courait après elle dans cette pièce assombrie comme un fantôme. Un ray de lumière jaillit vivement et s'évanouit, mouvement d'une psyché sans doute. Enfin, il fut possible de reconnaître Mademoiselle de Quinconas tout au fond, sur la droite, quasi dissimulée par une grande ombre. Elle se prélassait dans la bergère à oreillettes, toute coiffée, mais la gorge nue, qu'elle garantissait pudiquement à deux mains, sans y parvenir car elle l'avait forte. Puis, s'adossant au siège incliné, elle confiait à Thérèse le soin de tirer ses caleçons. À ce moment, la grande ombre bougea et le dos du marquis couvrit Mademoiselle de Quinconas. Alors Jacquette vit de ses yeux et entendit de ses oreilles que la gouvernante souffletait vigoureusement monsieur son père. « Êtes-vous satisfaite, mademoiselle ?» demandait Souzel, et sans penser à mal, le chevalier de Teugar. Elle le pria de la déposer à terre, et quand elle fut dans le fossé, lui raconta fidèlement ce qu'elle avait vu. Il en fut chagrin. Ce que Jacquelette n'apprend pas à sa gouvernante, mais l'essentiel est que mademoiselle de Quinconas a tout ce qu'il faut pour aspirer à la famille une tranquillité parfaite. Jacquette ne fit ni une ni deux quand elle put rattraper sa gouvernante.
« Pourquoi, dit-elle, avez-vous giflé, papa ?»
Mademoiselle de Quinconas reçut l'interrogation sans sourciller et dit que les enfants devaient se contenter de ce qu'on leur apprend aux heures de leçon, se garder de chercher au-delà et surtout de mettre l'œil aux fenêtres et autour des serrures, parce qu'au risque de s'y voir par avance, en enfer, grillé comme une côtelette. Jacquette se montra un peu désappointée, car elle avait pensé qu'on lui donnait une gouvernante pour s'éclairer sur ce qui se passait communément autour d'elle. Elle se demanda si Marie Coquelière n'eût pas suffi encore longtemps aux soins de sa petite personne. Au moins, la nourrice savait des histoires de fées et se soumettrait à ses 36 000 volontés. C'était bien mal estimer la valeur de Mademoiselle de Quinconas, qui lui apprit à lire, à compter autrement que sur ses doigts, à connaître à fond la vie des grands hommes de Plutarque, et lui enseigna la religion d'une manière un peu plus difficile à comprendre que l'on avait fait jusque-là. Songez que Mademoiselle de Charmante savait tout juste ses prières du matin et du soir. En plus de cela, sa gouvernante lui fit apprendre par cœur un petit traité de morale composé par Monseigneur de Trélazé, évêque d'Angers, son propre oncle, lequel contenait un appendice indiquant mot à mot tout ce qu'il faut savoir, croire et pratiquer pour être sauvé. Elle jugeait tout commentaire superflu, périlleux pour l'élève et pour le maître plus encore. L'étude des textes achevée, Mademoiselle de Quinconas devenait une longue personne à un déhanchement de fausse maigre qui se tenait sans cesse aux côtés de Jacquette et la menait promener en lui parlant du beau temps, de la pluie et, à la rigueur, des beaux exemples que l'Antiquité nous fournit. On ne pouvait dire ni qu'elle fût jolie, ni qu'elle fût laide, mais qu'elle fût sotte, ni qu'elle fût intelligente. Instruite par l'adversité à apprécier l'aubaine d'une place avantageuse, elle cultivait elle-même une pruderie, prude neutralité, et vivait dans la crainte d'offenser quelqu'un. Elle ne mangeait pas à sa faim, ne buvait pas à sa soif, car toute sa personne indiquait qu'elle était gourmande et portait vers la satisfaction de nombreuses sensualités. Ses traits, quoique peu harmonieux, n'étaient point vulgaires. Elle avait l'œil vif, ses lèvres rouges et charnues que Malitourne avait remarquées à la porte de la lingerie, et dont les dents les plus régulières n'avaient point à rompre la séduction puissante. Par exemple, un menton exquis, le tout soutenu par une taille heureusement assez longue pour porter allègrement des seins pesants qui eussent excédé un buste ordinaire. Ces dames, qui la jugeaient beaucoup trop haut montée sur jambes, apprécièrent la discrétion de sa tenue, et malgré les hommages que les hommes lui rendaient, se rallièrent à elle tant elle semblait les recevoir avec candeur et bonhomie. Elle n'avait jamais l'air d'entendre un compliment, laissait tomber une œillade dans son rosé corsage comme en un puits perdu, et arrêtait au bon moment un geste indiscret, mais en ayant l'air d'attraper des mouches. Un tact si parfait lui conquit la confiance absolue de la marquise, voire celle de Madame de Montfaucon, qui peu à peu se reposèrent entièrement sur elle du soin de Jacquette. Et l'on fut tellement tranquille à ce point de vue qu'on ne se gêna pas plus qu'avant le fameux esclandre qui avait motivé l'intervention du nièce d'évêque. La petite allait et venait dans le château, dans les corridors, dans les jardins, à l'office ou à table, et il semblait à tous que les influences les plus fâcheuses dussent être tenues pour inoffensives, fumées, grâce à la seule vertu de la gouvernante. De toutes les personnes de la maison, Jacquette était celle qui avait le moins de foi en la gouvernante. Jacquette apprenait à mentir et à dissimuler pour le plaisir de chiffonner le masque trop serein de Mademoiselle de Quinconas. Par exemple, descendait-elle avec sa gouvernante l'allée des fontaines. Arrivée à l'escalier qui mène au jardin bas, voici qu'elle virait brusquement et remontait l'allée sous prétexte qu'elle avait oublié son mouchoir, la passementerie à parfilage ou le manuel de Monseigneur de Trélazé. Elle avait tôt fait de mettre bonne distance entre elle et Mademoiselle de Quinconas, de qui elle allait supposer les lourdes hanches, et quand elle était assurée de ne plus figurer aux yeux de la gouvernante qu'une quille bleuâtre au bout de la longue allée, elle lui adressait un pied de nez ou lui tirait la langue. À qui la rencontrait essoufflée, elle feignait l'émotion et disait que sa gouvernante avait des vapeurs. Là-bas, au pied du grand vase, où il y a des hommes poilus qui ont une petite queue pointue de chaque côté. Et elle lui faisait porter des élixirs par quelqu'un de ces messieurs qui, en la courtisant, la mettait au supplice, car elle craignait sans cesse d'être compromise. On raconte l'aventure un peu cavalière de la chaise percée de Ninon, qui, par un tour singulier, contribue à nous faire savourer le parfum d'un pur amour. Si vous vous souvenez du propos considéré que Jacquette avait tenu à table et qui nous a valu l'installation de Mademoiselle de Quinconas, vous ne doutez pas, j'imagine, que ce vaurien de Château-Bedeau n'en est pour le moins tiré fort vanité. Quelqu'un donc avait eu l'idée de le coucher dans le lit de Ninon, et par la présence fortuite d'un perroquet, cette idée était maintenant si largement répandue qu'elle semblait avoir fait le tour du monde. Le chevalier de Tegard, qui adorait Ninon en secret, et la femme de chambre Thérèse, qui aimait caresser Château-Bedon la nuit, lui manifestait de la jalousie, chacun à sa manière. Quant à lui, le fat, il laissait dire Thérèse. Cependant, servait la marquise de trop près pour ignorer qu'elle n'avait pas d'amant. Car enfin, je ne sais si l'on a fait la remarque, Ninon, qui d'abord paraissait si légère, est la personne de la maison qui se conduit tout bonnement le mieux. Aussi Thérèse se prêta-t-elle à l'accomplissement d'une fantaisie que Château-Bedeau une toupet de lui proposer, et qui consistait à être introduit subrepticement dans la chambre de madame de Chamarante. Elle le laissa monter derrière elle un matin, tandis qu'elle portait, fumant sur un plateau, le chocolat de la marquise. On pouvait pénétrer chez Ninon par le cabinet de toilette, qu'une toile de Jouy à vignettes rouges séparait d'une pièce assez obscure, où pendaient robes, manteaux, jupons et fanfreluches. Thérèse dit à Châteaubedeau de se tapir en cet endroit et d'y faire le mort jusqu'à ce que madame la marquise vint à sa toilette. Avant de se cacher, le page huma les petits pots alignés sur le marbre, toucha les peignes, enfonça le nez dans la poudre et se rougit les lèvres. Il était plus agité qu'il n'eût voulu en convenir, et il éprouvait le besoin de toucher à tout et de commettre mille et une sottises plutôt que de rester tranquille. De ce qu'il ferait quand il se trouverait nez à nez avec la marquise, par exemple, il ne savait rien. Il se sentait prêt à tout, mais ne savait à quoi. Ce n'était pas qu'il débutât ce matin dans les entreprises, mais aucune de ses prouesses passées ne se laissait mesurer à celle-là. Il imaginait un grand roulement de tonnerre. La foudre tombe, elle vous dérobe votre montre au gousset, vous met le feu à la perruque ou vous coupe en deux comme un tronc d'arbre au petit bonheur. Il se voyait surtout racontant l'exploit à Dieu te garde de ce ton calme ou refroidi dont on narre un épisode sur quoi l'on a dormi des semaines. Il s'approcha de la porte, cligna de l'œil au trou de la serrure. Soudain la porte est poussée contre lui, il tombe à la renverse. « Qu'y a-t-il ? » demande de son lit la marquise. « Rien, madame, » dit Thérèse, qui a peine à retenir un éclat de rire. Et pour la vraisemblance, elle invente. « C'est le couvercle de la chaise de madame la marquise, que madame la marquise avait sans doute laissé ouvert. »« Impossible, » dit Ninon, qui saute à bas de son lit et accourt. Tandis que Thérèse pousse Châteaubedeau comme un paquet de linge derrière la toile de Jouy. Ninon arriva et demeura là, un moment, debout. Elle avait l'œil brouillé encore et elle se grattait à travers la chemise qui montait et descendait du genou à mi-cuisse selon les mouvements de la main. Le premier soin de Châteaubedeau fut de voir Ninon, de qui se dessinaient les pieds nus sous la toile. Il y parvint par une crevasse qui trouait le visage d'une bergère assise élégamment sur une gerbe de blé écarlate. Ninon, coiffée d'un petit bonnet de nuit, allait et venait sur le parquet frais qui flattait la plante et les mignons doigts de son pied, soulevés et abaissés un à un comme des touches d'ivoire d'une épinette, car elle semblait faire fi des mules tenues à la main par Thérèse. Elle marchait ainsi jusqu'à la fenêtre située au fond du cabinet, et revenait face à Châteaubedeau, se caressant les flancs avec sollicitude, notamment dans la région abdominale, comme on fait d'un bon fruit pour en éprouver la maturité. Elle fronçait le sourcil, frappait parfois le sol. Son angoisse était répétée sur le visage de la fidèle Thérèse. Tout à coup, elle troussa à haut sa chemise, s'assit sur la chaise. Son regard s'éclaircit et ses poings s'abaissèrent fort gravement sur ses genoux arrondis et lisses comme de belles pommes de Calville. Le tout étant parfait et achevé, Thérèse poussa prestement le meuble béant jusque sous la tenture de Jouy, selon un dessein assurément prémédité et dont Châteaubedeau sentit toute la malice à son endroit. D'accroupi qu'il était, il se releva d'un bond et pinça si fort le bras de la pauvre fille qu'elle cria. Ninon, qui se trouvait à califourchon sur un bassin de faïence rouennaise, regardait devant soi avec des yeux de carpe flottante, fut réveillé en sursaut et surprit la jambe du page au moment où le vaurien se mettait debout. Elle démêla la farce, et comme elle n'était point femme à se troubler pour si peu, elle dit « Sortez, monsieur, sans prendre seulement soin d'interrompre ses ablutions. Château Bedeau montra son nez enfariné, ses lèvres rougies, et il n'osait lever les yeux tant il était penaud. La marquise mit à profit cette lâcheté soudaine et jeta avec adresse en plein nez du gamin son éponge humectée d'une eau malodorante et bourbeuse. Le véritable amant, dites-moi, n'est-ce pas celui qui néglige ou transpose les cent misères du pauvre corps humain plutôt que celui qui se flatte de la pure suavité de sa maîtresse? Eh bien, la chaise percée de Ninon, dont je vous prie d'excuser l'irrévérencieuse image, va vous éclairer sur les sentiments des deux jeunes pages rivaux mieux que n'eussent fait de longs discours. Voilà notre château Bedeau qui descend en s'essuyant, crachant, grommelant et tamponnant son jabot, démoli, honteux, pique abîmé par la marquise, raillé par une femme de chambre. Il ne tarda pas à rencontrer le chevalier de Tegar, qui rôdait toujours sous les appartements de Ninon à la vue de château Bedeau. Dieu le garde fut tenté de fuir, et également tenté de s'approcher, dans l'espoir d'entendre peut-être prononcer le nom de celle qu'il aimait. Certes, il était dévoré de jalousie, mais à cause de son extrême timidité, une sorte d'admiration honteuse l'entraînait vers l'audacieux qui osait toucher l'objet de son culte. Car il soupçonnait château Bedeau de sortir du lit de la marquise. Il lui souhaita donc le bonjour. L'autre, en rajustant son habit, prenait cet air-là et dégoûté de jeunes blancs-becs qui s'en viennent de livrer un galant assaut. « Il faut bien, dit-il, respirer le grand air. » Puis, « peste soit des alcôves !» Le chevalier ne disait mot. « Avec leur poudre et leur parfum !» Enfin, il cracha loin devant lui. « Veux-tu des femmes ? » dit-il, « genre des soupers !» Dieu de regard pensait à Ninon. Il rougit que l'autre la mêla peut-être au nombre des femmes ordinaires. Mais château Bedeau parla tout net de Ninon et raconta que cette femme insatiable ne pouvait se résoudre à se séparer de lui le matin et l'obligeait à assister à sa toilette intime. Il dit avec une grande précision tout ce dont il avait été témoin, effectivement, et il prenait chaque chose si bien par le menu que Dieu te garde, ne doutez pas qu'il dit vrai. Mais par le merveilleux privilège de l'amour, le chevalier ne retenait rien des réalités décevantes dont un balourd affligeait une personne chérie, et l'injure faite à son idole élevait celle-ci encore plus haut dans la région où il avait coutume de l'honorer. Il pensa un moment souffleter son camarade. Il en fut retenu non par la peur, mais par la crainte de perdre à jamais Ninon, s'il endommageait ce garçon aimé d'elle. Il le pria donc seulement de ne plus lui parler de ce sujet. Et s'étant calmé, lui demandait aussitôt après des détails nouveaux, car, hélas, il s'enivrait d'entendre parler de Ninon, fût-ce de cette manière. La voix de la marquise au-dessus de leur tête fit fuir château Bedeau et retint au contraire le chevalier. Cette voix se répandait sur toute sa personne comme l'eau rafraîchissante d'une fontaine, et toutes les fois qu'il l'entendait, il avait l'idée que, si elle ne s'adressait pas à lui pour le combler d'expressions de tendresse, c'était par suite d'un malentendu qui ne saurait tarder à être dissipé, car il le méritait bien. Et il était sans cesse repossédé par l'espérance. Le baron de Chemillé donna à Jacquette une poupée nommée Pomme d'Api. Monsieur le baron de Chemillé arriva un matin avec un paquet sous le bras et demanda où était Jacquette. On lui dit qu'elle prenait Salson sous les charmilles, et il aperçut en effet, en même temps qu'il entendait un petit son de voix aigrelet et monotone, interrompu à intervalles fréquents et se relevant identiquement, monotone et aigrelet, comme la psalmodie des nonnins. Le bruit d'une mécanique, si vous préférez, dont le mouvement serait gêné par un gravier malencontreux. En avançant, le baron observa que Jacquette, qui marchait à côté de sa gouvernante, perdait le pas, comme par hasard, environ toutes les 2 minutes, et tirait à Mademoiselle de Quinconas une langue rose, de la longueur de la main. Il retint lui-même son pas pour ne point empiéter sur le temps consacré à l'étude et s'assit sur le premier banc. Là, il posa à côté de lui le paquet, tira sa tabatière et s'offrit une prise. Puis il parla haut, selon sa coutume. « Ben, je suis content, dit-il, d'avoir décidé de donner à ma filleule une poupée, car j'estime que la figure de carton peinturluré qui est enfermée là-dedans sera plus profitable à cet enfant que 4 demoiselles de Quinconas. Ce qu'il faut à Jacquette, c'est pas un précepteur, c'est une amie, ou à défaut, une bonne, mais à qui elle puisse parler à cœur ouvert. La femme demande à épancher ses petites affaires de cœur et de tête, elle ne s'ouvre que quelqu'un qu'elle sent inférieur ou tout au plus égal à elle. C'est à cette condition qu'elle ne ment point. Inutile, lorsque nous parlons, qu'on nous écoute et nous réponde, que l'on ait l'air de nous entendre, et nous voilà bien à votre aise. Nous sommes assurés, malheureusement, à partir d'un certain âge, que les poupées ne nous entendent point. C'est pourquoi nous les délaissons. Même ma filleule ne sait pas ça encore. Elle formulera devant cette figure complaisante ses impressions et sa pensée. Elle apprendra par là qu'elle a des impressions et une pensée. Autrement dit, elle prendra conscience de soi, ce qui nous est facilité par la magie quasi miraculeuse des mots. Car, contrairement à beaucoup d'esprits distingués, je suis enclin à croire que rien n'existe, même au moyen de notre cœur, tant qu'un bon terme ajusté comme un gant ne l'habille. Même cela, un sujet qui m'entraînerait fort loin. Nous ne sommes ici qu'un bon parrain qui paye un joujou à sa filleule, sans plus. Le baron remit sous son bras le paquet et s'approcha de cette demoiselle au moment où Jacquette venait d'endosser une verte semonce pour s'être montré incapable de citer dans leur ordre les 3 vertus théologales. « Mademoiselle, dit-il en saluant Jacquette aussi bas que possible, je vous fais bien mes compliments, car une fille vous est née. »«
Comment, dit Jacquette, mais je ne suis pas mariée. »
« C'est juste, dit le baron, aussi cette fille n'est-elle qu'une poupée. »«
Ah, dit Jacquette, voyons-la, quel nom allez-vous lui donner ?»
Jacquette répondit sans hésiter, comme si ce nom eût été choisi de toute éternité.
« Pomme d'api. »« C'est un nom qui lui va bien, opina Mademoiselle de Quinconas, car elle a joliment bonne mine. » « Oh, dit Jacquette, c'est sans doute qu'elle vient de naître. Les petits lapins sont plus rouges que cela. Quand est-elle née, mon parrain ?»«
Hier au soir, à la brune. »«
Ah, c'est donc cela, dit Jacquette, que j'avais tant de mal à boutonner ma ceinture ces jours-ci. »«
Pomme d'api, ma fille, dit-elle, je vous éleverai sévèrement. Et pour commencer, vous ne verrez personne au château. » « Oh, pourquoi cela ?» dit le baron.
« Ah, bien merci, elle en apprendrait de belles. »«
Méfiez-vous, dit le baron, c'est une poupée intelligente. »«
Qu'est-ce qu'elle sait déjà ?» demanda Jacquette.
« Oh, rien du tout. »«
Alors pourquoi dites-vous qu'elle est intelligente ?»«
Mais l'intelligence ne consiste pas à avoir appris beaucoup, mais à être apte à tout deviner. » Jacquette fut très contente de sa fille Pomme d'Api, en ce sens qu'elle s'amusa beaucoup à la gronder et à la battre. Elle la prenait sans cesse en défaut. Le plus grave qu'elle lui reprocha était une curiosité sans répit. Pomme d'Api, prétendait-elle, la questionnait sur toute chose et, comme les enfants ne doivent rien connaître, ce n'était pas une sinécure que de faire entendre raison à cette poupée. Ma pauvre pomme d'api, lui disait-elle, si tu dois continuer à vouloir t'informer ainsi, je te donnerai une gouvernante. Elle saura bien te clore le bec. Une fois pour toutes, tu ne dois m'interroger que depuis la création du monde jusqu'à Noé, parce que j'en ai pas appris plus long. Quant à ce qu'il y a des personnes qui nous entourent, mais, ma fille, tu n'as pas idée de l'énormité que tu commets en me demandant sans cesse ce qu'elles font avec leurs cachotteries, leurs mystères, leurs chamailleries, leurs yeux en coulisses, et cette manie qu'ont les messieurs de pincer le derrière des dames. Apprends, pomme d'api, que les grandes personnes ont le droit de faire entre elles les plus grosses malpropretés. Oh, je ne sais pas ce qu'elles font, mais aux précautions qu'elles prennent pour nous le cacher, il faut que cela soit abominable. Ah, tu as de la chance d'être une poupée, toi. Tu resteras toujours honnête. Ah, tu me demandes s'ils sont tous ainsi. Ah, ma chère, mais depuis l'âge de 12 ans, sauf monsieur le curé, mademoiselle de Quinconas, et plus ils vieillissent, pire ils sont. Tu ne te doutes pas de ce qu'on dit de mon parrain de Chemillet. C'est à ce point que, quoi qu'il te tienne pour ma fille, je le soupçonne de t'avoir eu de quelqu'une de ses soubrettes. Madame de Matefelon et mademoiselle de Quinconas partent en croisade de bon matin avec un petit manteau et un filet à papillons. Elles font dans le labyrinthe une rencontre imprévue et exécutent une opération étrange, cruelle et délicate. J'espère bien que personne n'a encore oublié que Madame de Matefelon avait vu d'un très mauvais œil la statuette de l'amour autour de laquelle ces dames allaient se baigner en été. Ses appréhensions augmentèrent, cela va sans dire, lorsque Jacquette fut en état de courir dans le parc. La marraine avait pris un assez fort ascendant sur Ninon, qui avait grand besoin de conseils, alors que la vieille dame en fournissait à foison. Celle-ci tenta d'user de son prestige pour faire abattre l'image du petit dieu impudique. Mais Ninon s'y refusa carrément. Elle se piquait d'avoir hérité de M. le meunier de Fontevraud le respect de beaux ouvrages d'art, quoique entre nous elle n'y entendît goutte. Et elle gardait ainsi, dans un coin secret de sa jolie tête, le souvenir de cette heure d'automne où elle avait éprouvé une si vive tentation d'approcher du Cupidon pubère. « Que l'on fasse enclore leurs droits, » insistait Madame de Matefelon. « Allons donc, » avait répliqué le baron de Chemillet, qui se trouvait toujours là au moment de ratiociner. « C'est une solution disgracieuse. » Et il fournit l'idée qui séduisit la marquise, tout en obtenant l'approbation de Madame de Matefelon, établir autour du bassin un labyrinthe tel qu'il était de mode d'en avoir dans les anciens jardins français. Un maître jardinier de Chinon apporta des dessins à choisir. On adopta le plus compliqué et le petit bois inextricable fut planté le prochain hiver. On respecta le bouquet d'arbres de hautes futaies qui environnaient la colonnade, mais pour l'atteindre, il fallait connaître le secret du labyrinthe, sous peine de se perdre une demi-journée dans un dédale d'allées et de contre-allées sans issue. Le système de clôture fut efficace. Ninon s'amusa une fois ou deux à triompher de la difficulté. Elle ne retourna plus jamais au bassin. Madame de Matefelon prit un jour à part la gouvernante et lui confia ses angoisses. Elle lui dit, avec 1000 détours, l'élément de scandale enclos dans ces bosquets d'aspect innocent, et ajouta qu'elle tremblait, que sa filleule, guidée, qui sait, par quelque esprit malin, ne s'aventura dans la tortueuse allée et n'y fut menée jusqu'au but redoutable. Cela fait, elle proposa à Mademoiselle de Quinconas, en qualité d'alliée, une campagne non dépourvue d'audace. Il s'agissait d'abattre un jeune dieu, son geste ingénument viril, sans endommager autant que possible l'œuvre d'art rendue par cette opération aussi inoffensive à contempler qu'un saint Sébastien, par exemple. Bien que les formes de ces jeunes gens, tout martyrs qu'ils soient, s'approchassent beaucoup trop encore de la nature. À l'heure convenue, la marraine de Jacquette et mademoiselle de Quinconas partirent pour leur croisade munis d'un marteau, arme offensive, et d'un filet à papillons pouvant servir à donner le change sur leurs intentions si elles étaient rencontrées, et destinées en réalité à recueillir les pièces à l'instant de leur chute, afin que celles-ci ne s'égarassent point dans le bassin pour en être exhumées quelques jours à la faveur d'un courage ou pour blesser le pied d'une des jeunes femmes, si par hasard la fantaisie les prenait de revenir se baigner en ce lieu. C'était le matin de bonne heure. Elles mouillaient leurs chaussures dans la rosée en trottinant par l'allée des fontaines, comme des dames qui vont à la messe. Madame de Matefelon, étant sèche de nature, ayant de grands pieds et une forte idée morale, allait plus vite. Mademoiselle de Quinconas, malgré sa taille fluette, avait du poids, vous le savez bien, et elle était partagée entre l'appréhension des risques que comportait l'escapade et le plaisir de voir et de toucher de près l'objet qui méritait une si romanesque entreprise. Pour gagner l'entrée du labyrinthe, arriver au degré menant au bas-jardin, ou, si vous aimez mieux, au pied du grand vase de marbre portant en bas-relief une bacchanale satirique, on tournait brusquement à droite et on s'engageait aussitôt sous une charmille touffue, creusée en voûte, qui vous menait fort loin. Après quoi, l'on pénétrait dans un bois de chênes, où les points de repère étaient de petites lunes peintes en blanc sur les troncs. Presque un chemin de petits poussets. Là commençaient insensiblement les fourrés d'ormes, d'abord clairsemés et libres, puis épais et taillés, enfin percés par une allée fort belle et de tout repos, qui bientôt se dédoublait et la perfide mêlait ses deux fils, les nouait, les multipliait en d'inexprimables enchevêtrements. Mademoiselle de Quinconas proposa de s'asseoir, aussitôt d'arriver sous le bois de chêne. Elle posait la main contre son cœur, ouvrait sa belle bouche charnue, et sa gorge ample et pesante se gonflait à petits coups précipités. Mais il fallut marcher beaucoup pour gagner un banc. Des merles couraient sous le feuillage, un lapereau partit entre les jambes de la marraine, ce qui fit rire la gouvernante, et l'on se plut à regarder ce bout de queue blanche qui sautillait en fuyant comme un papier à papillotes expulsé par un courant d'air. Mais madame de Matefelon, qui ne perdait pas son sujet, parla de cette sorte de malignité d'esprit propre aux artistes et qui semble les pousser, tous, à violenter la morale dans leurs peintures et dans leurs écrits, à tel point qu'il est peu d'hommes ayant accompli ce que l'on nomme un chef-d'œuvre qui ne porte en sa vie et en ses travaux la marque de cette possession démoniaque. À ce propos, mademoiselle de Quinconas dit qu'elle avait vu de bien vilaines images chez son oncle, monseigneur de Trélazé, l'auteur du Manuel. Et comme elle était familiarisée par son éducation première avec le langage travesti des libertins, elle décrivait ce qu'elle avait vu dans les cartons de l'évêque, en termes crus, à vous allonger les dents, comme si vous eussiez mangé des pommes vertes. La vieille dame prude, nonobstant l'intention qui était bonne, s'en trouvait fort incommodée. Elle crut devoir s'élever en faveur de ces messieurs, tant du bas clergé que du haut, qui parfois préfèrent souiller leur propre appartement d'immondices plutôt que de laisser à la rue ces horreurs néfastes aux yeux innocents. Mademoiselle de Quinconas faisait tourner entre ses doigts le long bambou du filet à papillons et le manchot de gaze verdoyante attrapait au-dessus de son front en guise d'insecte quelques essaims de ces esprits de malignité qui voltigent autour de nous dans l'air matinal, principalement quand on parle d'eux. Elle ouvrait ses grosses lèvres humides et son regard rejoignait quelques rêves de la nuit, interrompus par la croisade. Madame de Mantefelon fit observer que le soleil s'élevait et l'on se remit en campagne. Aussitôt engagé dans le labyrinthe, on apercevait la statuette par des fenêtres machiavéliques ménagées dans le corps même des frondaisons et nommées dans ce temps-là des « ha ha » à cause des exclamations qu'elle vous obligeait à pousser. Et volontiers eût-on cru qu'il suffisait d'étendre le bras pour toucher les petites fesses même du dieu de l'amour. Remarquez, s'il vous plaît, que quiconque ne parvenait point à gagner le bassin ne pouvait par ses « ha ha » apercevoir de l'amour que le dos. En vérité, ce travail avait été très bien fait. Et, à toute touche, n'allais-je pas oublier que l'on rencontrait des bancs vous invitant au repos et destinés, cela va sans dire, à vous faire gaspiller votre temps. Ces dames regrettèrent bien d'avoir été en chercher un si loin dans le bois de chêne. Vous devinez qu'elles avaient donné du premier coup dans le piège, le banc du bois de chêne n'étant là que pour vous éloigner du labyrinthe. À combien d'autres expiègleries ne se fussent-elles pas laissées prendre si un incident, qui faillit avoir les conséquences les plus fâcheuses, ne se fût produit sous leurs pas. Elles marchaient, figurez-vous, depuis une demi-heure dans le labyrinthe, tantôt chantant victoire parce qu'elles approchaient du Cupidon jusqu'après ce que le chatouillait avec le filet à papillons, tantôt pleurant leur infortune parce qu'un pas imprudent en avant les rejetait d'un quart de lieue en arrière, lorsque, enfonçant la tête dans l'un des « ha-ha » dont je vous ai parlé, la gouvernante observa que la statuette se voilait par intermittence sous quelque chose de comparable à la toison laineuse d'un mouton roux. Madame de Mantefelon mit cela sur le compte de troubles de la vue et dit que de telles illusions se produisent fréquemment à jeun lorsqu'on s'est levé de très bon matin. Cependant, ayant regardé à son tour, elle fut témoin du même phénomène. Mademoiselle de Quinconas regarda de nouveau et poussa un cri. La toison laineuse était celle d'un homme sauvage, tout au moins, si toutefois ce n'était que pas celle du diable. Cette toison, à chaque apparition nouvelle, exhibait une laine plus grossière et du plus répugnant aspect. Les narines de la gouvernante en croyaient humer l'odeur de sein. Tout à coup, cette bourre s'arrêta et obstrua en son fin bout la longue lunette creusée dans la verdure. Sous tant de poils hirsutes et floconneux, un œil, un seul œil, regardait. Madame de Mantefelon, ayant vu cela, s'écria « Oh, c'est lui, c'est Satan !» se signa et tomba. Mademoiselle de Quinconas s'était déjà affaissée sur le banc voisin. Ce Satan, c'était Cornebille. Mais que venait faire Cornebille à pareille heure, en plein cœur d'un parc où la marquise lui avait interdit de jamais poser le pied? Pis que cela, sur le lieu même où sa présence malencontreuse lui avait valu une telle disgrâce. Puisqu'à la fin tout s'explique, nous ne manquerons pas d'apprendre ceci tôt ou tard. Toujours est-il que la figure qu'il présentait n'était pas pour bien faire augurer de ses intentions. Son aspect était misérable, ses vêtements troués, sa tête immonde, et son œil unique dardait un terrible feu. Qui donc eût cru qu'un monstre à ce point hideux se fût penché avec des gestes secourables vers deux femmes aplaties sur le sol, à l'égal d'un linge de lessive? C'est ce qu'il fit, cependant, au lieu d'user de la circonstance, pour s'esquiver par le plus court, ce qui, ne vous semble-t-il pas, eût été la première idée d'un ordinaire malfaiteur. Cornemie donc secourut les deux femmes, en commençant toutefois par la plus jeune. Il leur frappa vigoureusement le dos et leur frictionna les tempes d'une main qui eût fait feu à frotter du bois, et pendant qu'il se livrait à une si surprenante besogne, il avignonnait de la voix ces deux dames, leur bêlait du ton d'un agneau. « Grâce, grâce, mesdames, ne trahissez pas mon secret !» Madame de Matefelou, qu'il avait connue autrefois, remit assez bien ses traits lamentables dès qu'elle put entr'ouvrir la paupière. Elle l'appela par son nom, dans l'intention de l'amadouer. « Sois superflu, c'est lui qui était à ses genoux. » Cette attitude rassura aussi la vieille dame, qui osa bouger. Toutes deux ensuite demandèrent à l'homme « Mais que faites-vous là, Cornebille ?» Cornebille ne disait point ce qu'il faisait là et continuait à implorer de ces dames la faveur qu'elles gardassent son secret. « Mais quel secret ?» demandèrent-elles. Il les pria alors de le vouloir bien suivre et les mena tout d'un trait, hoquetantes encore et tout essoufflées, jusqu'au bassin. Elles virent que le labyrinthe lui était familier et firent même très étonnées de trouver en si bon état un endroit délaissé depuis fort longtemps par la marquise. Le marbre du Cupidon était pur et luisant comme au premier jour. Nulle feuille ne ternissait le clair miroir de l'eau, aucun brin d'herbe ne piquait le tapis de sable, pas un défaut ne déparait le gazon. Tout cela, à mon avis, était beaucoup plus beau, abandonné aux soins négligents de la nature, mais Madame de Matefelon était des personnes honnêtes qu'une grande propreté avant tout édifie. Et elle faisait remarquer la netteté de toute chose à Mademoiselle de Quinconas, qui ne l'eût peut-être point vue, occupée qu'elle était de découvrir enfin l'autre face du jeune dieu de l'amour. La vieille dame tira de sa poche le petit marteau et, sans plus admirer la circonstance providentielle qui venait de la conduire comme par la main jusqu'en ce lieu difficile, elle se mit en devoir d'accomplir sa mission. Et dans ce but, elle dit à Cornebille « Écoutez un peu, mon bonhomme, vous ne voulez pas que je vous révèle votre présence dans le parc, c'est très bien. » Quoique je ne comprenne absolument rien à l'intérêt qui vous pousse à entretenir cet endroit aussi proprement qu'une armoire à linge. Enfin, je n'entre pas dans ce mystère. Je me tairai donc, oui, à condition que vous me rendiez le petit service d'atteindre le piédestal de la statuette, selon le moyen que vous possédez, puisqu'elle est si bien époussetée. Je vous confie cet outil, prenez-le. Et quant à moi de la margelle, je vous dirai votre travail et guiderai votre main. » Cornebille, qui n'était pas une bête, comprit fort bien ce qu'on allait exiger de lui. Il demanda s'il s'agissait là d'un ordre de Madame la marquise. Madame de Matefelon, ne voulant pas mentir, surtout en présence de la gouvernante, répondit qu'à la vérité, ce n'était pas l'ordre de Madame la marquise. Alors Cornebille dit qu'il ne ferait rien et qu'il préférait encore que l'on trahisse son secret. Il se redressa en prononçant ces mots, et son visage si déplaisant s'ornait, ma foi, d'une certaine magnificence, tant il avait dans tous ses traits de fermeté et de loyale servitude. Madame de Matefelon lui mit dans la main un écu de 6 livres. Il demanda si c'était Madame la marquise qui lui faisait remettre cet argent pour prix des services rendus nuitamment à l'endroit préféré de Madame la marquise. On lui répondit encore non. Il se frappa la poitrine et dit que c'était son plaisir de servir Madame la marquise du ton d'un mousquetaire qui va mourir pour le roi. Les deux femmes ne retinrent rien de lui, sinon qu'il s'en alla. Une fois seule, Madame de Matefelon regarda Mademoiselle de Quinconas, qui, quant à elle, ne regardait qu'une chose depuis qu'elle était là, à savoir la face opposée au dos du dieu de l'amour. La marraine de Jacquette considérait les ravages que la statuette eût pu produire sur l'âme de sa chère filleule, puisque l'effet en était si grand sur une personne déjà mûre et de vertu éprouvée. Elle en fut fortifiée dans son dessein et conçut par là même le moyen de le réaliser. Elle toucha l'épaule de la gouvernante et lui dit qu'il ne s'agissait à présent de faire ni une ni deux, mais qu'il fallait passer cette eau et accomplir à elle seule l'ouvrage. « Veuillez retirer vos habits, dit-elle. Pendant ce temps, je me détournerai et prierai Dieu qu'il bénisse notre entreprise. Nous imiterons la discrétion de la vieille dame et nous détournerons, quoique à regret, pendant le temps que mademoiselle de Quinconas se défait au bord du bassin, frissonne en plongeant son corps dans l'eau glacée du matin, et a tant de peine à faire progresser, en se dandinant dans cet élément, sa hanche opulente. Quand mademoiselle Quinconas eut atteint le socle, elle en gravit les degrés sous-marins, velus et glissants, où elle faillit perdre pied 4 fois, puis elle sortit de l'eau en se cramponnant à l'amour. Elle saisit le marteau que la vieille lui tendait dans le filet à papillons. Elle était grandement émue à plusieurs titres, car elle craignait, entre autres choses, de perdre sa place si jamais Ninon venait à savoir le petit forfait qu'on allait commettre là. Elle poussa donc un gros soupir en cherchant pour agir la position la plus favorable. Enfin, elle l'a trouvée, et en outre, elle est résolue. Mais voilà-t-il pas qu'à présent, elle n'ose pas porter la main sur l'objet. Madame de Matefelon l'excitait du rivage, battant du pied, de la main, et tendant à bout de bras le filet. « Courage, mademoiselle !» lui criait-elle. « Dieu vous voit !» Parole malheureuse. Car mademoiselle de Quinconas, qui était pieuse et pudique, fut gênée par l'idée que Dieu la voyait ainsi faite. Elle fit la moue comme une enfant. Elle avait beaucoup de chagrin, son petit marteau à la main, et peu s'en fallut qu'elle pleurât. Enfin, saisissant à pincer le relief délicat, elle l'abattit d'un coup sec. Un second coup suffit à l'achèvement de l'œuvre. Les tristes débris creusèrent en une longue pointe l'agace du filet que retira vivement madame de Matefelon. Mais l'amour, tout meurtri qu'il était, en regardant avec malignité ou mélancolie la plaie neuve de son ventre, souriait, soit du néant d'un endroit naguère si gaillardement orné, soit du néant de l'ouvrage de ses femmes,